Extrait numéro 3, chapitre 5. De Paris à Cologne, train express. Maintenant, commençons le récit de notre voyage, dont tout ce qui précède n'est encore que le prologue. Le wagon dans lequel je suis parti renfermait le comte et la comtesse, d'André et moi. Outre ces quatre animaux intelligents, il y avait dans le même wagon deux animaux instinctifs, deux frères inférieurs, deux candidats à l'humanité, comme les appelle notre bon et cher Michelet, deux chiens enfin, Douchka et Mouichka, petite âme et petite souris. Charik est dans le giron de Louise. Signorina est dans son panier. Tcherepacha est dans une boîte à confiture. Ni Charik, ni Signora, ni Tcherepacha n'ont été déclarés. Tous trois passent en contrebande. Douchka et Mouichka peuvent seuls se montrer au grand jour avec les billets à l'oreille, comme les étudiants le jour des premières représentations de l'Odéon. Sur l'observation du comte et de la comtesse, l'employé de la gare chargé du département des chiens n'a fait aucune difficulté après l'exhibition des billets de Douchka et de Mouichka de les laisser avec nous dans le wagon au lieu de les enfourner dans leur box. Bien entendu que nous avons loué entièrement le wagon dans lequel nous sommes, comme le wagon qui nous précède et celui qui nous suit. Moinet, qui m'accompagne, le peintre Moinet, dont vous avez vu tant de charmants décors à l'opéra comique, est avec le docteur, le pédagogue, le magicien et le maestro dans le wagon qui nous précède. Mademoiselle Hélène, Sacha, Mademoiselle Annette, Anouchka et Louise sont dans le wagon qui nous suit. Charik, Signorina et Tcherepacha voyagent dans la même caisse. Missam est parti en avant pour que nous ayons un bon déjeuner à Cologne. Simon et les deux écrivains sont je ne sais où. Il fait une chaleur étouffante, mais D'André, l'homme des précautions inouïes, a fait préparer trois paniers. L'un où il y a du vin de champagne et de l'eau glacée, l'autre dans lequel il y a des poulets rôtis, des œufs durs, des saucissons et du vin de Bordeaux. Un troisième enfin où il y a une collection de fruits, raisins, pêches, abricots et amandes. À Pontoise, on a soupé. À Creil, on a pris un soda water. À Compiègne, tout le monde dormait. J'ai été réveillée par la douane belge et par ces mots prononcés dans ce français que vous savez. « Tous les voyageurs descendent pour la douane. Ne laissez rien dans les wagons. Tout doit être visité, savez-vous » Cette invitation me fut confirmée par une grande pancarte suspendue dans l'intérieur du bâtiment et contenant ces mots. Ici, tous les effets doivent être visités sans distinction, excepté ceux d'usage, supportés, sic, par les voyageurs. Mon nom, gravé sur ma malle et sur mon sac de nuit, fit son effet ordinaire. On se contenta de me demander si je n'avais rien à déclarer, et par suite de ma réponse négative, le douanier traça un signe sur mes colis, lequel signe, non moins mystérieux que les hiéroglyphes déchiffrés par M. de Champollion, voulait dire « Laissez sortir monsieur non seulement avec les effets supportés par lui, mais encore avec ceux qu'il porte. » Pour tout cela, un simple signe suffisait, ce qui me fait supposer que la langue de la douane est la même que cette belle langue turque dont parle Molière et qui dit tant de choses en si peu de mots. Une heure après, nous étions en wagon et nous roulions vers Aix-la-Chapelle. Tout alla bien jusqu'à Verviers, c'est-à-dire jusqu'à la frontière prussienne. Là, nos tribulations, ou plutôt les tribulations de D'André, commencèrent. On se présenta à la portière pour demander nos billets. D'André présenta nos quatre billets. « Vous avez des chiens ?» demanda l'employé. « Voilà leur billet, » dit D'André. L'employé jeta un regard dans le wagon. Les deux chiens étaient invisibles. Il les crut dans leur box et se retira. Le sifflet se fit entendre on partit. À la station d'Aix-la-Chapelle, un autre employé se présenta. « Vos billets » demanda-t-il. Nos billets furent exhibés. « Très bien. Vous avez des chiens ?»« Voici leurs billets, » dit André. L'employé, après les avoir contrôlés, allait sans doute se retirer comme son collègue, quand Douchka, qui comprenait sans doute qu'il était question d'elle, sortit le nez des châles et des dentelles où elle était ensevelie et bâilla au nez du Prussien. « Vous avez des chiens, » reprit celui-ci d'un ton presque menaçant. « Vous le savez bien, puisque voilà leur billet. « Oui, mais les chiens ne doivent pas voyager dans les mêmes wagons que les voyageurs. « Pourquoi cela ? « Sans doute allions-nous avoir l'explication des paroles du digne employé, quand le sifflet retentit et quand le train se mit en marche. Le Prussien resta un instant encore perché sur son marchepied, réitérant avec acharnement ce précepte, « Les chiens ne doivent pas voyager dans les mêmes wagons que les voyageurs. » Mais enfin arriva le moment où, sous peine de venir avec nous à Cologne, il fut forcé de sauter à terre. Pendant toute la traite à parcourir, notre conversation coula sur ce texte. Pourquoi les chiens ne doivent-ils pas voyager en Prusse dans les mêmes wagons que les voyageurs quand ils y peuvent voyager en France ? Nul de nous ne fut assez fort pour résoudre la question. À la première station, à peine étions-nous arrivés, qu'un employé sauta sur le marchepied. Il semblait furieux. « Les chiens » cria-t-il. On avait complètement cessé de s'occuper de nous. « Comment les chiens ?»« Oui, vous avez des chiens. Voilà leur billet. Les chiens ne doivent pas voyager dans les mêmes wagons que les voyageurs. » Nous allions donc savoir le mot de l'énigme. « Et pourquoi cela ?» demanda André. « Parce qu'ils peuvent gêner les voyageurs. »« Ce n'est point le cas, » dit en excellent allemand le comte, qui prenait la parole pour la première fois, « puisque les chiens sont à nous. » « Cela ne fait rien, ils peuvent gêner les voyageurs. » Mais insista le comte, « puisqu'il n'y a pas de voyageurs que nous. » « Ils peuvent vous gêner, ils ne nous gênent pas. C'est le règlement. Quand il y a des voyageurs étrangers, soit, mais pas quand la caisse tout entière est louée par les propriétaires des chiens. C'est le règlement. Il est impossible que le règlement ait poussé l'absurdité jusque-là. Allez chercher le chef de gare. » L'employé alla chercher le chef de gare. Le chef de gare arriva. Il avait des moustaches, une croix et trois médailles. « Vous avez deux chiens ? » dit-il. « Oui. Il faut donner les chiens et les mettre dans leur box. Nous vous avons justement fait venir parce que nous désirons les garder avec nous, les chiens. » « Impossible. Pourquoi cela ? Parce que les chiens ne doivent pas voyager dans les mêmes wagons que les voyageurs. Donnez-nous une raison. » Ils peuvent gêner les voyageurs. Mais puisque les voyageurs, c'est nous, puisque les chiens sont à nous, puisque les wagons sont loués par nous, c'est le règlement « Donnez les chiens ». On allait donner les chiens lorsque le sifflet retentit. Le train se mit en marche. « c'est bien, » dit le chef de gare exaspéré. « À la prochaine station. » Et nous étions déjà loin que nous entendions sa voix menaçante qui nous criait « À la prochaine station. » Nous attendîmes la prochaine station dans l'anxiété. À peine le train avait-il fait halte que deux employés se précipitèrent vers notre caisse et ouvrirent la porte en criant « Les chiens !» Il était évident que nous avions été recommandés par la station précédente. Cette fois, il n'y avait pas à se défendre. Un des deux Prussiens avait déjà mis la main sur Douchka. Seulement Mishka avait disparu comme par une trappe. « L'autre chien !» criait le second Prussien. « L'autre chien ! Où est l'autre chien ?» Esclave du règlement, l'employé menaçait de chercher Mishka même là où elle n'avait jamais songé à se cacher, lorsque d'André eut une illumination subite. « L'autre chien, répéta-t-il, est dans le wagon qui nous suit. Venez !» Et à son tour, s'élançant vers le wagon qui nous suivait en effet, il plongea, malgré les cris de Louise, la main à l'endroit où il savait trouver Charik, qui, si tendrement défendu qu'il fût par sa protectrice, alla rejoindre Douchka. Le Prussien parut enchanté. Il fora Charik et Douchka dans leur box et revint fermer la portière derrière d'André en nous souhaitant un bon voyage. Vers midi, nous entrions dans la ville des Trois Rois où, voici tantôt 18 ans, j'étais entré pour la première fois avec ce pauvre Gérard de Nerval. Deux souvenirs, l'un de mon enfance, l'autre de mon âge viril, se rattachent à Cologne. En 1814, lors de l'invasion étrangère, ma mère craignit de rester à Villers-Cotterêts et jugea, je ne sais pourquoi, que nous serions plus en sûreté à Crépy-en-Valois, petite ville écartée et qui n'avait d'autre gage de sécurité que de ne pas être placée comme Villers-Cotterêts sur une grande route. Nous cachâmes dans une cave le linge, l'argenterie, deux ou trois meubles plus précieux que les autres, et ma mère sur un âne, moi en croupe, nous commençâmes notre fuite en Égypte. Au bout de 3 heures et demie de marche, nous étions arrivés au bout de notre voyage. Nous descendîmes d'abord chez une vieille dame dont les enfants avaient été à l'école avec moi et qui nous avait offert l'hospitalité. Elle se nommait Madame de Lompré et était veuve d'un ancien valet de chambre de Louis XV, lequel, entre autres cadeaux, lui avait donné. Peut-être avait-elle été assez jolie pour que Sa Majesté laissât tomber un regard sur sa sujette, lequel lui avait donné un splendide service de vieux Chine. Je vois encore ces soupières immenses, ces plats gigantesques, ces saladiers cyclopéens, avec leurs fleurs inventées par la fantaisie de quelques dias inconnus, avec leurs dragons créés par quelque arioste sans nom. C'était à se faire pain médaise un moderne amateur de bric-à-brac. Mais en 1814, ce bric-à-brac était inconnu. 10 fois, la pauvre femme, qui n'était pas riche et qui avait le défaut grave de se griser, avait essayé de vendre ce royal service en bloc. Mais c'étaient les étrusques qui étaient à la mode à cette époque, et non les porcelaines de Chine. Elle n'avait pas pu en trouver le prix que l'on trouverait aujourd'hui d'un service de faïence de Creil. Aussi, quand elle était pressée par son besoin d'ivresse, elle prenait une pièce quelconque, plat ou soupière, et s'en allait de porte en porte pour tâcher de le vendre. Quand elle avait trouvé 40 sous d'une pièce qui valait 200 francs, elle rentrait joyeuse chez l'épicier, buvait coup sur coup 2, 4, 6 verres d'eau-de-vie, et ne rentrait chez elle qu'ivre morte. Tout s'en alla ainsi morceau par morceau. Nous ne restâmes que quelques jours chez elle. Ma pauvre mère, qui ne buvait que de l'eau, et qui m'a légué sa préférence pour ce liquide, ne pouvait assister et surtout ne voulait pas me faire assister à ce hideux spectacle de l'ivrognerie. Elle s'arrangea avec la veuve d'un médecin, dont les deux fils avaient suivi la même carrière que leur père, l'un dans le civil, l'autre dans le militaire. L'aîné des fils, le médecin civil, habitait avec sa mère. Le cadet, le chirurgien-major, donnait en ce moment même de graves inquiétudes à sa famille. On avait reçu de ses nouvelles datées de la veille, de la bataille de Brienne. Mais depuis la bataille, on n'en avait pas entendu parler. Était-il mort? Était-il blessé? Était-il prisonnier? Il y avait en outre 2 sœurs, Amélie et Adèle. Toute cette bonne famille s'appelait la famille Millet. La digne veuve nous céda une petite chambre et 2 lits. La petite chambre, située au 1er étage, quoique donnant sur la cour, avait vue sur la rue. Cette rue n'était autre que la grande route de Crépy à Villers-Cotterêts. Quant à la nourriture, nous devions la prendre tous ensemble et en payer chacun notre part. La première nuit, vers 1 heure du matin, nous entendîmes vigoureusement frapper à la porte. L'alarme fut grande. En un instant, tout le monde se trouva sur pied, en attendant l'ennemi à tout moment. Ce fut M. Millet aîné qui alla ouvrir la porte. C'était le seul homme de la maison, puisque j'avais 11 ans. Tout le monde attendait avec terreur l'apparition de ce visiteur de nuit qui ne se lassait pas de frapper. On entendit des cris de joie. Monsieur Millet appelait sa mère et ses sœurs. Tout à coup, un beau jeune homme de 25 à 28 ans se précipita dans le salon et, jetant son manteau, apparut en uniforme de chirurgien-major. Une exclamation de bonheur s'échappa de toutes les bouches. C'était le second fils de la maison, dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 mois. Mère, sœur, frère s'élancèrent dans les bras les uns des autres, en pleurant, riant, parlant tout à la fois. Ma mère me tira à part et, sans rien dire, sortit avec moi. Nous étions des étrangers et, dans ces circonstances, tout est un trouble fait. Nul ne fit attention à notre départ. On ne savait pas même que nous fussions là. On ne nous avait pas vus, ou si l'on nous avait vus, on nous avait oubliés. Le lendemain, on nous raconta toute la scène de la veille comme si nous n'y avions pas assisté. Mais en nous apprenant ce que nous savions, on nous apprit ce que nous ne savions pas. Le jeune officier faisait partie du corps d'armée du maréchal Mortier. Ce corps d'armée s'était laissé surprendre la veille au soir à Villers-Cotterêts. Il y avait eu une échauffourée terrible, un effroyable sauve-qui-peut, où chacun dans la nuit avait tiré de son côté. Frédéric Millet avait tout naturellement tiré du sien. À 3 lieues seulement de sa ville natale, il avait songé à sa mère, à ses sœurs, à cette bonne petite maison si tranquille avec son jardin qui lui mettait, comme à une villageoise qui va à la danse, son bouquet de fleurs aux côtés. Il s'était orienté, s'était reconnu, avait pris à travers champs, traversé à gué la petite rivière de Vaucienne, rejoint la route au bois du Tillet et était venu frapper à la porte si bien connue. Maintenant qu'il avait embrassé mères, frères et sœurs, il voulait rejoindre son corps d'armée. Mais où était ce corps d'armée? N'était-il pas probable qu'en essayant de le rejoindre, il allait tomber dans quelque parti prussien et y perdre ou la liberté ou la vie? Ne valait-il pas mieux attendre des nouvelles, le bruit du canon, qui, à défaut de nouvelles, ne pouvait pas manquer de se faire entendre? Il se ralliait au canon, ainsi qu'on dit en langue militaire. En attendant, comme l'ennemi pouvait paraître d'un moment à l'autre, et Frédéric être reconnu pour appartenir à l'armée française, il se coupa les moustaches et on l'habilla en bourgeois. Ses habits militaires, soigneusement pliés, furent, avec son épée, fourrés au fond d'une armoire. À peine venait-on de prendre ces précautions que l'on apprit qu'un petit détachement d'infanterie et de cavalerie française venait d'arriver à Crépy. Frédéric courut voir ce que c'était. C'était une petite colonne égarée appartenant au corps d'armée du duc de Racuse. Elle venait de placer ses sentinelles et espérait prendre un peu de repos. Mais l'ennemi la suivait à la piste. À peine Frédéric était-il rentré, que nous entendîmes un bruit de fusil, puis la sentinelle placée à l'extrémité de notre rue rentra en ville, fuyant et criant « Aux armes !» Derrière elle accourait au grand galop un corps de cavalerie prussienne. Je vois encore les soldats qui composaient ce corps. Ils étaient vêtus d'une petite redingote bleue à collet blanc avec des pantalons gris. Chacun fermait portes et fenêtres à l'approche de ce tonnerre que l'on entendait gronder sur le pavé de la route. Il était évident que le soldat qui fuyait devant lui en criant « aux armes » serait rejoint et foudroyé avant d'avoir atteint le centre de la ville où étaient ses compagnons. Millet l'aîné courut à la porte de la rue, l'ouvrit, fit un signe au soldat qui s'élança dans le jardin. Derrière lui, avec la rapidité d'une machine de théâtre, la porte se referma. Il était temps. Les cavaliers que, du point de vue élevé où nous étions, nous pouvions voir depuis quelques minutes, tournaient l'angle de la rue et entraient dans la ville. Ils passèrent comme une trombe. Millet ouvrit une porte de derrière et indiqua aux soldats un chemin d'enceinte par lequel il pouvait rejoindre ses compagnons. Le soldat ne prit de temps que celui de boire un verre de vin, de recharger son fusil et partit. La porte fut refermée et verrouillée. On comprend l'intérêt que chacun dans la maison prenait aux détails de ce drame. Nous étions tout yeux, tout oreilles. Bientôt, on entendit ce même bruit de fers de chevaux sur le pavé. C'étaient nos petits Prussiens bleus qui repassaient. Mais si vite qu'ils furent entrés en ville, ils en sortaient plus vite encore. Ils étaient ramenés par nos hussards. Quels que fussent les efforts de ma mère pour me retenir, je courus à la fenêtre et je vis cette sublime et terrible chose qu'on appelle une mêlée. On se battait corps à corps, à coups de sabre et à coups de pistolet. Les Prussiens avaient essayé de se reconnaître et de tenir un instant, mais ils étaient trop vivement poursuivis. Ils furent forcés de lâcher pied et de se confier de nouveau à la vitesse de leurs chevaux. Toute cette masse reprit son cours, s'allongea en continuant de combattre et disparut avec son bruit et sa fumée à l'angle du chemin, ne laissant derrière elle que quelques corps étendus sur le pavé. Trois de ces corps restaient immobiles dans des flaques de sang. Un quatrième se traînait vers la porte de la maison, sans doute pour poser sa tête sur le seuil et pour mourir tranquille sur l'oreiller de pierre en se rappelant sa patrie. C'était un jeune homme à redingote bleue, un Prussien par conséquent. Le sang coulait abondamment d'une blessure qu'il avait reçue au front. Millet et Frédéric s'élancèrent vers la porte, l'ouvrirent et le reçurent évanoui dans leurs bras. Puis la porte, qui s'ouvrait avec autant de charité pour les amis que pour les ennemis, se referma derrière eux. Le jeune blessé fut porté au salon. En faisant face, il avait reçu un coup de sabre qui avait ouvert le front, et il perdait beaucoup de sang par cette blessure. Dès ce moment, l'attention fut tout entière concentrée sur le blessé. Si c'étaient les Français qui demeuraient vainqueurs, nous n'avions rien à craindre. Si c'étaient les Prussiens, le blessé devenait notre sauvegarde. On y avait songé qu'après l'avoir recueilli. Mais enfin, puisque la situation était bonne, il fallait l'accepter comme telle. Les femmes se mirent à faire de la charpie, les deux chirurgiens déchirèrent des serviettes pour faire des bandes, le blessé demeurait toujours évanoui, le crâne avait été ouvert et il était à craindre que le cerveau ne fût atteint. Pendant ces préparatifs, nous entendîmes battre la charge à la manière française. C'étaient nos deux ou trois compagnies de voltigeurs qui se mettaient de la partie et passaient devant la porte de la rue. Bientôt retendit une fusillade épouvantable. Sans doute avait-il rencontré l'ennemi au bout de la ville. Le blessé fut pansé selon toutes les règles de la chirurgie militaire. Une fois pansé, il revint à lui. Il parlait assez mal le français, mais Millet l'aîné parlait assez bien l'allemand, de sorte qu'il fut facile au blessé et à son chirurgien de s'entendre. Un instant après, on frappait à coups redoublés à la porte. Millet aîné alla ouvrir. Les Prussiens étaient maîtres de la ville et c'était un groupe de soldats qui demandait le logement et la nourriture. Millet les conduisit auprès du blessé, qui se fit reconnaître par un officier, et plaça une sentinelle à la porte de la rue, avec consigne de ne laisser entrer personne. Il va sans dire que dès que la sentinelle fut relevée, elle fut conduite à la cuisine, où elle trouva son dîner prêt. Au bout d'un mois, le jeune Prussien nous quittait complètement guéri, après avoir été soigné par la mère comme un fils, par les sœurs comme un frère. Il nous laissait ses actions de grâce, son nom et son adresse. Il se nommait Antoine-Marie Farina et était de Cologne. C'était le neveu du célèbre Jean-Marie Farina, le premier distillateur du monde connu. En 1838, j'avais fait mon voyage sur les bords du Rhin. J'étais venu à Cologne. Je m'étais enquis d'Antoine-Marie Farina. Antoine-Marie Farina, au lieu d'allonger des coups de sabre et d'en recevoir, s'était fait distillateur et vendait de l'eau de Cologne. Je me fis indiquer le magasin. J'entrai sous le prétexte d'acheter une petite caisse de sa marchandise. Il n'y avait qu'un garçon au magasin. Je le priais d'aller chercher le patron. Le patron dînait. Quoique dérangé dans cette grave occupation, il vint souriant et gracieux. Ma vue se porta sur son front. La cicatrice y était, c'était bien lui. Il vit que je le regardais avec une attention toute particulière et me demanda d'où lui venait cet honneur. Je lui demandai s'il se rappelait où il avait reçu la blessure qu'il portait au front. Il me répondit que c'était dans une petite ville de France nommée Crépy. Je lui demandai s'il se rappelait le nom de la famille qu'il avait accueillie. Il me répondit qu'elle s'appelait Millet. Je lui demandai s'il se rappelait un petit garçon de 10 à 12 ans qui tenait la cuvette pleine d'eau rougie par son sang quand il avait rouvert les yeux. Il me regarda avec curiosité. « Je ne demande pas, lui dis-je en riant, si vous le reconnaissez. Je demande si vous vous le rappelez. »« C'était donc vous ?» me dit-il. Je lui tendis les deux mains et en même temps lui citai un ou deux détails qui ne pouvaient lui laisser aucun doute. Il me sauta au cou et appela toute sa famille, une femme et deux charmantes filles. En deux mots, mots prononcés en allemand bien entendu, elles furent au courant de la situation. Alors ce fut une embrassade générale. On m'entraîna dans la salle à manger, on me fit asseoir. On me bourra de pain anisé, de veau, confiture et de lièvre au pruneau, que l'on arrosa avec la meilleure bouteille de Johannisberg que l'on put trouver à la cave. La journée se passa à table, la soirée à prendre du thé et à manger des confitures. Nous nous quittâmes à 1 heure du matin. De mémoire d'aïeul, on ne s'était couché si tard à Cologne. Mon second souvenir est plus récent. J'habitais à Florence en 1840 une charmante maison de la Via Arondinelli, la rue des Hirondelles, que m'avait cédé mon ami Cooper, alors attaché à l'ambassade anglaise, aujourd'hui jouissant à Paris de quelque chose comme 600 ou 800 000 livres de rente, mais homme d'esprit toujours et charmant compagnon. Good fellow, comme dit Shakespeare, à Paris comme à Florence. Un jour, on m'annonça un pasteur allemand. Un pasteur allemand ? Que pouvait me vouloir un pasteur allemand ? N'importe, dis-je, faites entrer. Je m'attendais à voir un vieillard vénérable à barbe blanche, et je m'apprêtais à lui demander sa bénédiction, quand on introduisit près de moi un homme d'une trentaine d'années, blond, rose, joufflu, au visage souriant, à la main ouverte. Je souris et j'ouvris ma main. « Que puis-je faire pour votre service, monsieur ?» lui demandai-je. « Vous pouvez me faire voir Rome, que je meurs d'envie de voir, » me répondit-il, « et que je ne verrai pas si je vous trouve autre que je vous crois. » Je commence par vous dire que j'espère être ce que vous me croyez. Maintenant, comment puis-je vous faire voir Rome ? Laissez-moi vous conter mon histoire, ce ne sera pas long. Asseyez-vous d'abord, vous me conterez votre histoire après. Le jeune pasteur s'assit. « Je m'appelle S, me dit-il. Je suis le fils de la fameuse tragédienne allemande S, frère du célèbre comédien D. » « Mais alors, lui dis-je, je connais toute votre famille, et c'est bien ce qui m'encourage. Alors continuez. J'ai une petite cure à Cologne, derrière le dôme. Si vous venez jamais dans la ville d'Agrippine, vous me trouverez là. » Je m'inclinai. « J'ai 1 200 francs d'appointements par an. Je suis arrivé, à force d'économie, à mettre 1 000 francs de côté, et avec ces 1 000 francs, j'ai entrepris un voyage d'Italie, ambition de toute ma jeunesse. » C'était Rome surtout que je désirais voir. Je comprends cela. Eh bien, monsieur, faites-vous une idée de mon désespoir. Il ne me reste sur mes 1 000 francs que juste ce qu'il faut pour m'en retourner à Cologne, et je n'ai pas vu Rome. Je me mis à rire. Et vous venez me trouver pour que je vous fasse voir Rome, lui dis-je. Justement, je viens vous emprunter 500 francs que je ne vous rendrai jamais. Je vous en préviens d'avance, afin que vous sachiez à quoi vous en tenir, à moins que vous n'exigiez que je me remette au pain et à l'eau pendant 5 ans, ce que je ferai si vous l'exigez, mais ce qui ne me sera sûrement pas agréable. « Oh, cher monsieur S., lui dis-je, vous pensez bien que je n'aurai point cette cruauté, n'est-ce pas ?»« Oui, je l'ai pensé, et c'est pour cela que je suis venu à vous. Vous verrez Rome et vous boirez votre petit verre de vin du Rhin, et vous mangerez votre morceau de bœuf après votre potage. Venez avec moi. Je vous suis de confiance, à merveille. » Nous allâmes chez messieurs Ploden et French, sur lesquels j'avais un crédit. Je fis compter au bon pasteur S 100 écus romains, ce qui faisait 600 francs au lieu de 500, et je lui montrai du doigt la route de Rome. Il se jeta dans mes bras en pleurant de joie. « Allons, lui dis-je, bon voyage, et ne m'oubliez pas dans vos prières. « Est-ce que les bons cœurs ont besoin que l'on prie pour eux ?» me répondit-il. « Les bons cœurs se recommandent tout seuls. Je penserai à vous et vous aimerai. Ne m'en demandez pas davantage. » 2 ans après, je passai à Cologne avec mon fils. J'allais faire une visite au pasteur S. Comme il me l'avait dit, la maison n'était pas difficile à trouver. J'entrai sans me faire annoncer. Il jeta un cri de joie, puis d'un air quelque peu effaré. « Vous ne venez pas me redemander vos 100 écus romains, j'espère bien, » me dit-il. « Non, je viens seulement vous demander si vous avez vu Rome et si Rome vous a plu. » Il leva les yeux au ciel. « Quelle ville, » me dit-il, « et quand je pense que c'est à vous que je dois de ne pas mourir sans l'avoir vue. » Il m'embrassa. « Venez, » me dit-il, « venez que je vous montre quelque chose. » Je le suivis de confiance à Cologne, comme il m'avait suivi de confiance à Florence. Il me conduisit dans sa chambre à coucher et me montra mon portrait entre ceux de Hugo et de Lamartine. « Ah ça, pourquoi, lui demandai-je, ces messieurs ont-ils des cadres? Et pourquoi moi n'ai-je qu'un passe-partout ?»« Parce que vous avez mon cœur pour cadre, vous, » me dit-il. Voilà les 2 souvenirs qui se rattachent pour moi à la ville de Cologne et que vous voudrez bien prendre au lieu et place d'une description que vous trouverez d'ailleurs dans mes impressions de voyage sur les bords du Rhin. Vous voyez que passant 7 fois encore à Cologne, mon premier soin fut de faire mes 2 visites accoutumées. Hélas, Antoine-Marie Farina, ce beau jeune homme dont j'avais aidé à panser la blessure en 1814 est mort à l'âge de 70 ans l'année dernière. Et mon ami S, le voyageur, a quitté Cologne pour habiter un petit village des environs où il a obtenu une cure qui lui rapporte 200 francs de plus. Que l'un dorme en paix dans son tombeau, que l'autre vive joyeusement dans son presbytère.